Moi, ce que je veux, c'est ma cathédrale.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire pour le cinquième et dernier épisode de notre série consacrée cette semaine aux cathédrales. Comment est venu le temps des cathédrales? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre avec Mathieu Lours, historien de l'architecture, spécialiste des cathédrales et du patrimoine religieux. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé des hommes qui, sur le terrain, ont construit les cathédrales, depuis le simple terrillon qui manie la pelle jusqu'au maître verrier qui compose les vitraux. Aujourd'hui, le cas particulier de Notre-Dame de Paris, une longue histoire mouvementée.
Tous les grands chefs d'État de ce monde étaient présents pour un hommage solennel dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, présidée par le chef de l'État, M. Jacques Chirac.
1300 personnalités, plus de 60 chefs d'État ce matin à Notre-Dame de Paris.
Notre-Dame de Paris n'a pas le prestige de la cathédrale de Reims, où depuis le XIe siècle, les rois de France viennent se faire sacrer, ni celui de la basilique de Saint-Denis, qui depuis le roi Dagobert jusqu'à Louis XVIII abrite la nécropole royale. Pourtant, la cathédrale de Paris, située sur l'île de la Cité, au cœur donc de la capitale, a toujours eu une place à part, à la fois religieuse et politique. C'est à Notre-Dame, par exemple, donc, qu'en 1996, ont été célébrées les obsèques solennelles du président Mitterrand. Dès ses origines au VIe siècle, à l'époque mérovingienne, Notre-Dame de Paris a vocation à exalter la puissance de l'Église et en même temps le pouvoir royal. Une double fonction qui est confirmée au XIIe siècle, très exactement en 1163, lorsqu'à l'initiative de l'évêque Maurice de Sully, un fils de paysan devenu très riche, débute le grand chantier de construction de la cathédrale gothique, telle, à peu près, que nous la connaissons aujourd'hui. Elle ne sera achevée que 2 siècles plus tard. La légende veut que ce soit le pape lui-même qui en ait posé la première pierre en présence du roi des Francs, Louis VII.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Depuis sa construction au XIIe siècle, Notre-Dame de Paris est le théâtre d'innombrables événements historiques. L'ouverture par Philippe le Bel des premiers états généraux en 1302, au XVIe siècle, le mariage de Marie Stuart et, 6 jours avant la Saint-Barthélemy, celui de Marguerite de Valois et d'Henri de Navarre. Pendant la Révolution française, ce symbole de l'Ancien Régime devenu propriété de l'État subit de nombreux saccages. Le plus spectaculaire, en 1793, la décapitation des 28 statues qui forment la galerie des rois sur la façade. Un témoin de l'époque, Sébastien Mercier, raconte l'événement. Vous rappelez-vous, ces rois du portail de Notre-Dame, ces masses informes, aussi épaisses que des éléphants, qui formaient un long cordon dans les niches du frontispice de la première église de Paris. Savez-vous ce qu'ils sont devenus? Eh bien, entassés derrière l'église, ils restent enterrés sous les plus sales immondices. La même année, la cathédrale est transformée en temple de la raison où l'on pratique le culte de l'être suprême. En 1804, Napoléon choisit Notre-Dame pour se sacrer lui-même empereur, puis couronner sa femme Joséphine de Beauharnais. La cathédrale est dans un tel état de délabrement qu'on recouvre les parois de tenture. Sous la restauration, on envisage sérieusement sa démolition. Vous imaginez démolir Notre-Dame. Heureusement, dès 1825, le romantique Victor Hugo lance l'alerte. Et bien sûr, c'est son roman, en 1831, qui définitivement arrête le bras des démolisseurs. Plus près de nous, à la libération de Paris, le général de Gaulle, premier homme politique à inscrire Notre-Dame dans un parcours républicain, assiste le 26 août 1944 au Magnificat, donné dans la cathédrale, bientôt assailli par des coups de feu. Dans la panique, De Gaulle, lui, reste droit et impassible, tel un roi de France.
Au moment même où le général De Gaulle arrive à Notre-Dame, une fusillade éclate. Jusque sur le parvis de Notre-Dame, des balles sifflent.
Mathieu Lours, malgré tous ces événements tumultueux, est-ce que la Notre-Dame des XIIe et XIIIe siècles a relativement bien survécu au fil des siècles? Bon, je parle bien sûr jusqu'à l'incendie de 2019.
Oui, c'est un peu une miraculée, parce que c'est une des rares cathédrales à ne pas avoir connu d'incendie, à ne pas avoir été pillée par les protestants pendant les guerres de religion, qui ont pillé 70 cathédrales et en ont détruit 15, plus que la Révolution française. Et puis, elle a aussi franchi le seuil des deux guerres mondiales sans dommage.
Est-ce que Notre-Dame de Paris est la plus grande cathédrale de France ?
Alors, quand elle est entreprise, oui. Et c'est là que Maurice de Sully, il franchit le Rubicon. C'est pas usuel qu'un évêque construise une cathédrale plus grande que celle de son archevêque. Mais comme c'est la capitale désormais du royaume sous Louis VII, on voit très grand, 120 mètres de long, 33 mètres de haut. C'est vraiment un édifice record. Mais comme il lance la course au gigantisme, il la perd. Et à partir de 1211, Reims est plus longue et plus haute, Chartres était déjà plus haute, ainsi que Bourges en 195. Donc, elle a été construite pour être la plus grande, elle ne l'est pas, c'est Amiens qui a le record, commencé en 1220, qui fait 146 mètres de long.
Mathieu Lourdes, vous dites que de la fin du Moyen-Âge à la Révolution française, Notre-Dame devient un édifice fondamental pour la construction de la monarchie absolue et du renforcement de l'État en France. Pourquoi ?
Le roi n'habite plus à Paris, il est à Versailles. Il est avant à Saint-Germain-en-Laye, très souvent. Mais l'État reste à Paris. Et lors des grandes cérémonies, le Parlement de Paris, la Cour des comptes, la Cour des aides, va assister à toutes les célébrations des victoires de la France à travers les fameux Tédéum. Lors des pompes funèbres également. Et Louis XIII et Louis XIV vont, par deux campagnes successives, reprendre tout le décor intérieur de Notre-Dame de Paris. Louis XIII, par son vœu du 10 février 1638, en fait le principal sanctuaire, la Vierge Marie, et sur le modèle de Paris, il y a tous les 15 août une procession.
C'est là aussi que vont être données la plupart des funérailles en grande pompe des grands de ce monde. Évidemment, il y aura Mitterrand, mais entre-temps, il y a eu beaucoup de monde aussi. Oui. La galerie des rois, c'est assez étonnant, ces 28 sculptures qui sont décapitées pendant la Révolution. On en a retrouvé quelques-unes de ces têtes, je crois, en 1977.
Exactement. Elles avaient servi, en fait, à des travaux de terrassement dans le quartier de la Chaussée-d'Antin. Et immédiatement, elles ont été prises en charge par les conservateurs du Louvre et du Musée national du Moyen-Âge.
En 1977, c'était.
Voilà, ouais. Et elles sont aujourd'hui exposées au Musée de Cluny, Musée national du Moyen-Âge, et elles ont toujours cette dimension très royale. On se sent très petit face à ces grandes figures qui ont été remplacées par des copies dessinées par Viollet-le-Duc et réalisées par l'atelier de Geoffroy de Chaume, son collaborateur pour les sculptures.
Alors est-ce que c'est vraiment à Victor Hugo, justement, et à Viollet-le-Duc que l'on doit la préservation de Notre-Dame de Paris ? Claude Govard, une autre historienne, dit que sans Viollet-le-Duc, Notre-Dame aurait été en ruine.
C'est Victor Hugo qui fait comprendre qu'on doit aimer les monuments nationaux, y compris les monuments gothiques. Il y a une part de retour de l'irrationnel, de l'anticlassique, vraiment ce qu'aiment les romantiques, de retour du sublime, en somme, dans ces monuments. Et puis pour l'État, à commencer par la monarchie de Juillet, c'est aussi une incarnation de l'idée de monument national, qui a une aura plus large que son strict rôle religieux pour définir l'identité de la nation. Et c'est dans ce sens-là que Viollet-le-Duc restaure aussi Notre-Dame de Paris. Il nous rend une Notre-Dame dans ce qu'il appelle l'État complet, mais c'est un État qui est aussi pétri d'histoire. Il n'a pas touché aux aménagements de Louis XIV, qui ne sont pas du tout gothiques. La Pietà dans le cœur, c'est une étape importante.
C'est à Viollet-le-Duc qu'on doit les gargouilles.
La plupart des gargouilles avaient été démolies au XVIIIe siècle parce qu'elles menaçaient de s'écrouler. Donc Viollet-le-Duc reconstitue ce peuple de pierre sur Notre-Dame de Paris et il rend finalement ses visages multiples à la cathédrale.
On aurait pu penser, Mathieu Lourdes, qu'avec la Révolution française, puis la République, et surtout après la séparation de l'Église et de l'État, Notre-Dame de Paris, fortement associée à la monarchie, évidemment à la religion, perde sa fonction politique et en fait il n'en est rien.
Effectivement, pour toutes les grandes funérailles nationales, eh bien on retrouve l'intérêt d'une cathédrale. Le président Sadi Carnot, le président Félix Faure, et puis ensuite les présidents de la Ve République jusqu'à François Mitterrand. Mais pour Valéry Giscard d'Estaing, c'était pendant le Covid. Et puis pour Jacques Chirac, bah Notre-Dame avait brûlé. Mais le bourdon a sonné.
Le bourdon a sonné.
Le bourdon a sonné. Ouais.
Est-ce que Notre-Dame, c'est la paroisse de la nation ? C'est ce que disait Marie-Yvonne de Saint-Pulgent, l'ancienne directrice du patrimoine au ministère de la Culture.
C'est ce qu'elle dit en citant le chanoine Guillaume de Montjoie, qui parle de paroisse de l'État dès les années 1750. Donc effectivement, c'est très vrai. Elle devient la seule église nationale qui ait survécu à cette trilogie Reims-Saint-Denis-Paris. Parce qu'à Paris, le roi de France prononçait quand même le serment de défendre l'église gallicane. Donc c'est celle qui a le plus collé à la nation, grâce en particulier au fait que Napoléon s'y soit fait couronner.
Ah bah oui.
Et que toutes les dynasties du XIXe siècle y aient réalisé leurs grandes cérémonies.
Une cérémonie incroyable qui mêlait le sacré et le politique,
oui,
le laïc, même de la Révolution.
Dans la nef, il prête le serment civique sur le code civil. Ça n'a rien de religieux, ce sur quoi il prête serment dans la nef.
Merci beaucoup Mathieu Lours de nous avoir rappelé l'histoire tumultueuse des cathédrales gothiques en France. De vous, on peut lire le Dictionnaire des cathédrales aux éditions Gisreau, et puis plus récent, Rebâtir Notre-Dame aux éditions Talendier. À lire également, et bien sûr, l'indémodable Temps des cathédrales de Georges Duby dans la collection Bibliothèque des histoires chez Gallimard. C'est la fin pour aujourd'hui du Fil de l'Histoire. L'émission a été réalisée par Claire Destacan, assistée d'Anne-Cécile Perrin. À la technique, Alex Olarewaju-Otinois. Vous pouvez vous abonner au podcast du Fil de l'Histoire sur l'appli Radio France. J'attends vos commentaires sur la page de l'émission ainsi que sur Facebook.